France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Nous les avons appelés les enfants traducteurs, mais certains les nomment courtiers linguistiques. Il s'agit de ces enfants qui maîtrisent mieux que leurs parents la langue, la culture et parfois l'écriture. Ils ont dans ces domaines plus de compétences que leurs parents pour différentes raisons. Alors, dès leur plus jeune âge, les enfants servent d'intermédiaires, de traducteurs, d'interprètes ou donc de courtiers entre leurs propres parents et le monde extérieur. Non seulement ils traduisent la langue, mais ils décryptent parfois aussi une nouvelle culture, des codes et des coutumes qu'ils apprennent à l'école en accéléré. Bien souvent, les parents finissent par dépendre de leurs enfants pour communiquer avec les administrations, le corps médical ou même les commerçants. Les jeunes ou très jeunes doivent du même coup évaluer les situations et interpréter les volontés de leurs parents. Ils endossent des responsabilités bien trop lourdes pour leurs épaules enfantines, générant du stress, de l'anxiété et aussi des erreurs. Un ancien immigrant chinois en Californie avait d'ailleurs soumis un projet de loi interdisant aux administrations ou organismes d'État d'utiliser un interprète de moins de 15 ans. Tout de suite dans les pieds sur terre donc, voici deux récits qu'il ne faut pas comparer ni mettre sur le même plan, mais qui d'une certaine façon se complètent, par Alice Durieux.
Je m'appelle Anne, j'ai 42 ans et j'habite à Meudon, dans le 92. Je suis CODA, c'est un acronyme pour Child of Deaf Adult, concrètement enfant de parents sourds. Je suis née dans une famille, on va dire, de classe moyenne. Ma sœur et moi, on était les deux figures entendantes de la cellule familiale. Donc à la maison, on parlait la langue des signes, notre langue maternelle, notre première langue, avec le français, qu'on parlait essentiellement à l'extérieur, avec la famille entendante, à l'école. Donc on avait vraiment deux langues maternelles. C'est tellement instinctif et naturel que quand je parle à l'oral, je bouge les mains beaucoup, ça accompagne le ton, l'intention que j'ai, parfois les mots, ça m'arrive de signoter un peu en parlant. Quand j'étais petite, on me sollicitait pour absolument tout, hein, c'est-à-dire passer des coups de fil, tous les rendez-vous administratifs, médicaux. En fait, je devenais un peu la secrétaire de la famille, quoi. C'était vraiment tout et n'importe quoi, si j'ose dire. Et il n'était pas question de refuser, jamais. Je le faisais, je ne me posais pas plus de questions que ça. Là où ça devenait plus compliqué, c'était dans les situations délicates, où je sentais du conflit autour de moi. Ça me mettait souvent mal à l'aise. C'est arrivé assez souvent hein, que mon père vienne me chercher et me demande de passer un coup de fil. Et moi, je m'asseyais, je prenais toujours le petit tabouret qui était à côté du poste où il y avait le Minitel à l'époque et le téléphone. Et puis, il m'expliquait le contexte. Par exemple, il n'était pas content, il avait envie de le faire savoir. Et il me demandait vraiment d'incarner sa colère. Et c'était terrible parce qu'il surveillait. Il fallait vraiment que je le fasse. On décrochait le téléphone et puis je prenais un peu la voix de mon père. Oui, bonjour, je vous appelle de la part de mon papa. Alors, il est vraiment très en colère, il a besoin de vous le faire savoir. Et là, je traduisais en direct ce que mon père voulait dire. Donc la personne au bout du fil mettait quand même un certain temps à comprendre ce qui se passait. C'était toujours un peu malaisant, quand même. Avec ma voix d'enfant, avec mes mots d'enfant, je devais exprimer l'intention, l'idée qu'avait mon père ou ma mère. J'essayais d'avoir un langage quand même assez soutenu, avec mes moyens à moi. Et puis, je voulais vraiment être crédible, quoi. Que mes parents se sentent compris, et dans le message, et dans l'intention, et surtout qu'on ne ressentent pas qu'ils étaient handicapés. Déjà parce que c'était mes parents et que c'est toujours difficile de se rendre compte que la société voit nos parents comme handicapés. On a envie que ce soit nos héros, ce soit nos protecteurs. Pas qu'on les trouve bêtes, parfois, justement parce qu'ils parlent pas la même langue que les autres. On n'a pas envie de voir nos parents humiliés ou qu'on les prenne pour des idiots alors qu'ils ne le sont pas, quoi. On a envie d'admirer et de compter sur nos parents jusqu'à ce que la vie, naturellement, nous rende indépendants. Voilà, c'est plus dans l'ordre des choses. Mais là, en fait, c'était un peu inversé. C'est un peu gênant, mais c'est pas leur faute, c'est pas la nôtre. J'avais tout de suite compris que je ne pouvais pas dire non. Et mes parents en avaient conscience aussi. Ils ont utilisé aussi ma position d'enfant entendante aînée pour se faciliter la vie concrètement. Si je disais non, comment allait-il faire? Et le peu de fois où j'exprimais un agacement parce que j'avais peut-être autre chose à vivre, mes parents me le faisaient sentir aussi, ressentir. Ils me disaient quand même, comment on va faire, c'est compliqué, il faut que tu nous aides, téléphone à machin. Et vu qu'en plus de ça, la situation familiale était complexe, c'était très conflictuel à la maison, il y avait beaucoup de violence. Des violences dans lesquelles j'étais complètement impliquée. Mes parents ne s'entendaient pas. Ils avaient besoin de me solliciter quand même assez souvent. Et à l'école, c'était assez compliqué parce que les enseignants se rendaient compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas à la maison. Ça se ressentait. Donc mes parents étaient souvent convoqués. Et c'était moi qui devais traduire pour eux, pour parler de moi. Donc tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était assez particulier, contre lequel je luttais absolument pas. Pour moi, c'était ma normalité, donc je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et j'avais très très vite compris que si je ne le faisais pas, il n'y aurait pas de communication possible. On a été confrontés à ce monde d'adultes très très tôt, dans lequel moi, l'aîné, j'étais plongée à 100%. C'est-à-dire que j'ai pas vécu une enfance sereine et joyeuse et tranquille. Avec le recul, je me rends de plus en plus compte de l'anormalité de ce qu'on me demandait de faire. Ma mère est partie du domicile quand j'avais 11 ans. Et c'est vraiment à ce moment-là que la procédure officielle de divorce a commencé. Et elle s'est officialisée, je crois, je devais avoir 13-14 ans. Un jour, je me suis retrouvée donc devant le juge des affaires familiales. Et c'était moi qui traduisais. Donc je me rappelle de ce grand bureau en bois. Je me rappelle même de la chaise sur laquelle j'étais. Enfin, ça m'a beaucoup marquée. Donc je traduisais ce que disait le juge et ressort le mot conflit. Donc je demande au juge, mais excusez-moi, pour traduire correctement, j'aimerais juste comprendre le mot conflit. Et ce juge m'a répondu, mais enfin, mademoiselle, comment ça, vous ne comprenez pas le mot conflit? Enfin, conflit. Enfin, il s'est mis à rire de moi. Encore une fois, j'étais une enfant. Et donc, s'est moqué de moi parce que je ne comprenais pas la signification de ce mot. Et je lui avais dit, mais j'ai besoin de comprendre conflit parce que c'est pour mes parents, pour qu'ils comprennent. Mais les autres adultes entendant autour de moi n'ont absolument pas réagi. Et le fait qu'on m'engueule pour ce genre de choses, enfin pour un mot que je n'avais pas compris, ça m'a percuté quand même. Ça, c'est un souvenir très très vif. Et puis après, notre garde a été attribuée à notre père. Ma mère, n'étant plus au domicile et nous sous la garde de notre père, on a commencé à subir, en quelque sorte, les violences que ma mère subissait à l'époque quand elle était chez nous. Moi, j'ai été percutée par ce départ, le départ de ma mère. Et puis après, j'ai vécu mon adolescence comme ça, avec mon père, et ça a été très, très compliqué. Toujours avec cette position d'enfant devenu adolescente qui traduisait pour tout. Et tous les copains que j'avais avec des parents entendants, des familles relativement stables, ils n'avaient pas les mêmes problématiques, ils n'avaient pas les mêmes responsabilités. Quand ils rentraient chez eux, ils faisaient leurs devoirs et puis ils jouaient à la console, quoi. Ça m'arrivait aussi, attention, hein. Mais j'avais toujours quelque chose qui me gardait sur le qui-vive, quoi. Et ça a été comme ça jusqu'à ma majorité. Mais avec les années, j'ai eu de plus en plus envie de vivre par moi-même, donc de découvrir le monde. J'avais vraiment un besoin viscéral de partir, de me libérer. Je leur en voulais pas, mais j'avais besoin de vivre. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai tout de suite travaillé. J'ai mis de l'argent de côté et je suis partie vivre à l'étranger, très loin. Je suis partie en Asie. Et ça a été un peu ça, ma rébellion, en quelque sorte. Il fallait juste que je parte. J'avais 19-20 ans, enfin par là. Là, ma vie a vraiment commencé. Je suis devenue instructeur de plongée jusqu'à mes 26 ans. Et après, je suis revenue en France volontairement. Et donc, je retrouve ma famille, surtout ma mère, parce que mon père, avec les années, j'ai eu de moins en moins de contact avec lui. Mais c'est vrai que maintenant que je suis adulte, j'arrive quand même de temps en temps à dire non. De temps en temps. Avec ma mère, on vit dans la même ville, on est très proches. Et pour elle... C'est vrai que je fais tout ce qui est nécessaire pour lui faciliter la vie. Quand on est dans ma situation, on peut très vite se retrouver le parent de nos propres parents. C'est assez malaisant. Hein. Quand on prend conscience de ça, on sent bien que c'est pas tout à fait dans la logique des choses. Mais on n'a pas trop le choix, en fait. Hein. Je me rends bien compte aussi de ce décalage. Quand ma mère me demande de rédiger des courriers pour elle, elle peut le faire. Mais elle sait que je fais mieux. Beaucoup de sourds ont des problèmes avec le français, avec l'écriture, avec le rédactionnel et la compréhension écrite du français. Donc, quelque part, ça me fait un peu de la peine parce qu'elle se dit « je suis moins forte que ma fille ». C'est juste parce qu'elle est sourde, mais elle n'est pas moins intelligente. Elle me voit comme aujourd'hui... même depuis longtemps, comme quelqu'un qui fait mieux, qui sait mieux, qui parle mieux, qui s'exprime mieux en tout point. En quelque sorte, c'est vrai, mais c'est pas juste. Et ça, on le perçoit très tôt, je trouve, quand on est enfant. C'est pas normal. On apprend à vivre avec cette peine constamment. Aujourd'hui, je suis interprète en langue des signes, et pour moi, c'est vraiment une réconciliation avec ma jeunesse, que je ne subis plus, mais que je choisis de vivre. Finalement, aujourd'hui, j'en fais quelque chose de beau, et mon métier est une vraie passion pour moi. J'en suis très fière, et c'est chouette d'avoir réussi à retourner un peu les choses de façon positive et de surtout pas subir, quoi.
Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Nour, j'ai 42 ans. Je suis née et j'ai grandi à Paris et je suis journaliste. Je viens de ce qu'on appelle un village vertical, une cité. J'ai trois frères et sœurs et je suis la dernière de la famille. À la maison, nous avons toujours parlé l'arabe, l'arabe dialectal d'Algérie. Le français était vraiment une langue réservée à l'extérieur ou aux amis. Mes premiers souvenirs de français datent de quand j'avais 3 ans, en maternelle. Ni mon père ni ma mère n'ont pu aller à l'école, car ils sont nés sous l'Algérie française. Depuis toujours, j'ai dû tout traduire pour mes parents, j'ai dû tout lire pour mes parents parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Traduire ce que disaient les professeurs, traduire ce que disait la personne à la boulangerie. J'ai passé du temps à appeler la sécurité sociale. Et ils voyaient très bien que la personne au téléphone n'était pas un adulte. Mais je disais voilà que je suis la fille et que ma mère est à côté. Quand j'étais petite, en fait, pour moi, c'était vraiment naturel parce que mes amis marocains, maliens, il y avait beaucoup, beaucoup de nationalités différentes, guinéens, traduisaient en fait aussi pour leurs parents. Et quand j'avais 6 ans, je me souviens avoir très tôt signé, rempli des chèques. J'ai souvenir de mercredi et de samedi gâchés. Parce que je devais accompagner mon père à la CAF, à la Sécurité sociale, avoir dû remplir des papiers. Je devais remplir des fiches cartonnées avec le numéro de Sécurité sociale, le nom, le prénom. Voilà, parce qu'il manque toujours des documents pour l'administration française et à chaque fois on devait y retourner. Alors que j'avais des copines qui allaient en bas, qui allaient jouer à la balle aux prisonniers, qui allaient jouer à chat. Et moi j'allais pour faire ça, pour aider mon père et ma mère. J'étais pas très contente, quoi. Je voulais juste jouer. Et puis j'avais toujours l'espoir que mon père m'achète un cadeau, ce qui était très rarement le cas. J'ai le souvenir d'une boutique de jouets à côté de la CAF, je sais plus, dans 92. J'avais vu cette poupée, en fait, en passant devant, une poupée, une Barbie espagnole. Et à l'aller et au retour, j'ai expliqué à mon père, je ne l'ai pas eu. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'être obligée de retourner la semaine d'après, aider mon père à remplir des papiers. En 1997, mon père est tombé gravement malade. Il est resté 2 ans à l'hôpital. Et pendant ces 2 années, en fait, à la suite d'une dénonciation de la voisine du rez-de-chaussée, les comptes de mon père ont été bloqués. Elle est partie à la banque pour dire que mon père n'était pas là, que c'est pas mon père qui signait les chèques. Alors on s'est retrouvés dans la merde. Moi j'avais 13 ans, ma sœur avait un peu plus de 18 ans, elle avait commencé les études, et elle a dû arrêter ses études pour commencer à travailler, et on a dû tous mettre la main à la pâte. Ça a eu de nombreuses conséquences sur toute notre vie. Ma mère a dû faire beaucoup plus de ménage, elle travaillait toute la journée, le soir elle allait à l'hôpital pour voir mon père. Et il y a une vieille dame qui lui faisait toujours une liste de courses à faire pour le lendemain. Et en fait ma mère ne savait ni lire ni écrire, mais elle ne sait toujours pas. Mais la dame elle a toujours pas assimilé, en fait, elle ne la croyait pas. Elle dit mais c'est pas possible, tu es tellement intelligente, tu ne peux pas ne pas savoir lire et écrire, ça n'existe pas. Alors elle lui lisait quand même la liste des courses et ma mère retenait. Dès la première fois, en fait, dès qu'elle lisait une fois, elle retenait tout ce qu'il fallait acheter. Mais parfois, en fait, il y avait un couac et il y a un ou deux produits dont elle ne se souvenait plus. Et je croisais son regard un peu paniqué à Auchan. En fait, elle était avec la liste et je ne pouvais pas ne pas l'aider. Parce que pour moi, ça passait au-dessus de ce moment réhab que je passais avec des copines dans la galerie marchande. Alors je disais au revoir à mes copines et j'allais aider ma mère avec cette liste de son ancienne patronne. Puis il y a aussi la lecture des documents, la lecture des prospectus. J'ai passé, je pense, une partie de ma vie à lire les prospectus de pub parce que ma mère voulait savoir ce qu'il y avait comme promotion sur telle ou telle feuille. Et quand elle a des papiers à remplir, elle nous dit souvent, dans un premier temps, « J'ai fait ton plat préféré. » Et moi, voilà, c'est le couscous de ma mère ou des pâtes artisanales qui sont très très bonnes. Mais en fait, ça gâche un peu le plaisir. Voilà, enfin, elle pose, je vais me servir du couscous, je me pose sur la table basse dans le salon et elle vient avec et elle pose ça comme un tyrannosaure à côté de mon assiette et en fait ça me coupe l'appétit. J'ai même plus envie de manger. Enfin, il y a pas de plat assez bon en fait maintenant pour me faire avaler toutes ces lettres à lire. En plus, il y a plein de prospectus dedans. Et puis elle s'assied en face, elle me regarde. Je peux pas lui dire non, mais bon, ça me saoule. J'aimerais faire autre chose. Avec ma mère, j'aurais préféré regarder un film ou aller à Auchan, qui est l'activité principale dans mon quartier. M'occuper des papiers et des documents de ma mère pendant plus de 35 ans, ça a été une énorme charge. On m'a retiré quelque part mon enfance, mon temps de jeu, mon insouciance. Et en même temps, en fait, ça m'a permis aussi d'être responsable très vite et d'être, comment dire, une fusée administrative. Je peux régler des problèmes très très vite. En fait, j'ai aucun problème à remplir quelques papiers que ce soit. J'ai pu faire de longues études sans avoir un sou parce que j'ai réussi à avoir des bourses à droite à gauche et aussi de proposer mon aide à des collègues qui ont la phobie administrative et aussi de monnayer l'aide que je peux apporter administrativement. Depuis que je suis petite, mes parents sont mes enfants. Ma mère, c'est ma fille. En fait, plus elle vieillit, plus elle a une attitude d'enfant. Et c'est dur, en fait, parce qu'il n'y a aussi aucune reconnaissance de sa part. Il y a une gêne de demander, mais il n'y a aucune reconnaissance de sa part. Et ma mère aurait pu apprendre à lire et rire plusieurs fois, parce que nous, on a tous essayé chacun notre tour de lui apprendre à lire et rire, et à chaque fois, c'est impossible. Mais nous, ça, mais je suis vieille, mais j'ai une vie difficile. Et elle nous dit qu'elle est vieille depuis qu'elle a 40 ans. Ma mère a été veuve très tôt, à 50 ans. Mais je lui ai même pris un prof à domicile, un prof particulier, la directrice de mon ancienne école primaire. Mais ma mère a dû lui sortir le thé et les macroutes, des petits gâteaux au miel. Et en fait, elle n'a jamais appris à lire ni à écrire. La prof est venue deux fois et puis on va arrêter les frais parce que je pense qu'elle n'a pas du tout envie d'apprendre. Et elle est très confortable là-dedans. Voilà. Mais le plus difficile, oui, c'est tout ce qui est médical, de devoir aller chez le médecin à Paris ou ailleurs, et de devoir ramener ma mère ensuite chez elle, et après de devoir revenir à Paris récupérer mon fils à l'école. Ça, c'est vraiment une très lourde charge à laquelle on ne pense pas quand on pense aux parents qui ne savent ni lire ni écrire ou qui ne parlent pas français. C'est très très lourd à porter. Et il y a un an, j'ai emmené ma mère voir mon médecin parce que en banlieue, parfois, il y a beaucoup d'attentes pour avoir un bon rendez-vous avec un bon médecin. Et mon médecin, en fait, que j'aimais beaucoup, s'est moqué de ma mère parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer en français. Alors, il y a déjà le stress d'être malade, le stress d'avoir dérangé son enfant parce que quand même, ça la dérange de nous déranger. Et il y a ce porc qui ricane quand ma mère essaie de s'exprimer en français. Et qui se moque encore plus quand elle me demande de traduire de l'arabe au français. Je ne suis plus jamais retournée le voir, plutôt crevée. Je pense que cette expérience avec le médecin là m'a fait ressurgir beaucoup de vieux souvenirs où en fait il y avait des moqueries. Et là, j'ai 42 ans et je ressens au fond de moi en fait la même tristesse que j'avais quand j'avais 6, 7, 8, 9 ans en fait. Je la ressens au fond. Au fond de ma poitrine, voilà. Traduire des choses douloureuses, traduire des choses vexantes à ma mère, ça j'ai dû le faire à plusieurs reprises, oui, c'est difficile. Maintenant, ma mère, en fait, quand j'ai pas trop le temps de venir, je lui ai appris à prendre des photos de ses médicaments ou des choses à faire. Et récemment, en fait, elle a fait des examens, un peu poussés parce qu'elle avait un problème, une tache au poumon. Elle m'envoie une photo un soir. Et en fait, c'était marqué noir sur blanc qu'elle avait un cancer du poumon. Et l'hôpital où elle est allée a fait juste l'examen, lui a donné le compte-rendu. Ils l'ont laissé partir et ma mère ne savait pas. Du coup, elle m'a envoyé la photo, mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Et moi, ça m'a fait un choc. Je ne savais pas comment lui dire au téléphone. Alors, je lui ai dit de prendre rendez-vous avec son médecin. J'ai même appelé le médecin pour lui dire, voilà, pour lui envoyer le document. Aujourd'hui, elle est très bien traitée, parce qu'elle a toujours été diagnostiquée très tôt. Mais ça, c'est les souvenirs, les chocs de savoir lire et écrire face à une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Voilà.
C'était Les enfants traducteurs, un reportage d'Alice Durieux réalisé par Eric Lancien. Merci à Bar McCoy, à Laurie Hazan, à Elodia Moto de l'association Coda France, ainsi qu'à Aminata et Aïcha. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel. Well, I do. No, my, I share it with you. And still I see you in front of me. The air's been breathing.